Alors ce matin, par la grâce de Dieu, je ne sais pas si je peux avoir le retour, non ? Nous allons voir un texte parallèle à un texte que nous avons vu, j'ai regardé mes notes, en octobre 2010, en Jean chapitre 6. Et nous allons regarder le texte parallèle, merci Stéphane, en Matthieu chapitre 14. Ah, c'est bien, je m'entends, c'est parfait. Matthieu chapitre 14. Et je vous invite sans plus tarder à lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 36 avec moi. Matthieu 14, versets 22 à 36. Aussitôt après, il, c'est Jésus, obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu !» Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génésareth. Les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Prions. Notre Père, merci de placer ce texte devant nous ce matin. Merci de te glorifier dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre intelligence renouvelée. Merci Seigneur de disposer nos cœurs à ta volonté, à la compréhension des Écritures et à la soumission de ce que tu as à nous apprendre les uns les autres dans les leçons spirituelles que tu places dans nos vies. Parfois nous faisons la sourde oreille, parfois nous écoutons, parfois nous retardons à écouter. Mais Seigneur, merci parce que tu es un Père pour chacun de nous et tu prends soin de nous. Alors nous t'en bénissons et nous t'adorons comme les disciples dans la barque pour reconnaître que tu es Dieu, le Fils de Dieu Tout-Puissant et que tu peux tout et tout dans nos vies comme dans toutes circonstances. Alors nous t'adorons ensemble ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Tout le monde passe par des épreuves. Mardi dernier, nous étions ensemble pour regarder, pour prier. Et je devais faire la méditation, et j'ai fait la méditation sur la patience. Et quand je regardais autour de moi, ça m'est venu lorsqu'on priait, je pouvais discerner que chacun aurait pu témoigner de son épreuve particulière ou de ses épreuves, et combien Dieu demande la patience dans l'épreuve qu'on a eue, ou dans l'épreuve qu'on est en train de traverser, ou dans l'épreuve que l'on aura. En fait, tout le monde passe par des épreuves. Alors, je ne connais pas quelle est votre épreuve. Il y en a peut-être plusieurs. C'est la vie chrétienne. Pour nous, croyants, Dieu nous demande de lui faire confiance, même au sein des épreuves. Alors, la question que le Seigneur nous laisse ce matin, avez-vous foi en Dieu lorsque vous êtes éprouvés? Avez-vous foi en Dieu lorsque vous êtes éprouvés? Le texte que nous avons lu ce matin va nous prouver que nous pouvons lui faire confiance en toutes circonstances et au sein de nos diverses épreuves. En fait, on va regarder tout d'abord le contexte, si vous me permettez, avant d'aller dans le vif du sujet. On va essayer de regarder l'état d'esprit dans lequel se trouvent les disciples. À partir du verset 12, si vous voulez bien, du même chapitre, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir et ils allèrent l'annoncer à Jésus. C'est l'assassinat, n'est-ce pas, le meurtre de Jean-Baptiste. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule l'ayant su sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Déjà, le diable attaque le royaume de Dieu, n'est-ce pas, présenté par Jean-Baptiste qui annonçait le roi qui venait. Et puis, il y a cette foule qui est dans un grand besoin et dont Jésus est plein de compassion. Compatir, souffrir avec, Jésus voit ce besoin, et notamment le besoin de nourriture. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, au verset 15, la Bible nous dit, le soir étant venu, donc c'était déjà une journée bien longue, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule, rien qu'elle aille, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Autrement dit, c'est le moment pour eux de dégarpir et s'occuper de leurs propres affaires. Et Jésus est étonnant parce que Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Vous savez, Dieu a des réponses parfois qui nous surprennent, qui sont bien différentes de notre logique. Donnez-leur vous-même à manger. Et là, il les met au pied du mur. Il teste leur foi. Oui, ils n'ont rien. Alors qu'est-ce que vous allez faire, vous, pour combler ce besoin? Et le Seigneur nous appelle aussi, alors qu'on n'a rien à donner aux autres, de croire qu'il peut nous donner pour combler les besoins des autres. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons, et il dit, apportez-les-moi. C'est tellement simple la vie avec le Seigneur, on dirait. Il dit, apportez-les-moi, il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains, et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule, tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers, pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000 hommes, sans les femmes et les enfants. De rien, Jésus a nourri toute une foule, 5 000 hommes, sans les femmes, sans les enfants. Alors ça fait combien? Au moins un enfant par couple, ça fait déjà 15 000. Peut-être 2 enfants, ça fait 20 000. Par 5 poissons, 5 pains et 2 poissons. Ça, c'est le miracle de Dieu. Mais vous auriez été là. Vous ne croyez pas que votre foi était un peu boostée, non? De voir ce miracle, de voir comment Dieu multiplie le pain et les poissons. Moi, j'aurais aimé être là, Et je pense que c'était du pain de qualité divine, et de bons poissons. Mais ce n'est pas le tout du contexte ici. Il faut aller en Jean chapitre 6. Si vous tournez maintenant en Jean chapitre 6, on a autre chose qui vient dans le contexte. La mort de Jean-Baptiste, donc déjà une oppression face au royaume. On a Jésus qui fait un magnifique miracle, n'est-ce pas, pour nourrir toute la foule et qui fortifie la foi de ses disciples, parce que de voir ces miracles... Certainement, les disciples ont eu la foi fortifiée. Mais au verset 14 du chapitre 6 de l'évangile de Jean, il est écrit, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Ce n'était pas le moment pour Jésus d'être élu roi. D'ailleurs, ça aurait été pas du tout sa mission sur terre. Et donc, ça aurait été une sédition terrible. L'Empire romain aurait certainement écrasé cette révolte. Et Jésus s'est retiré. Donc, il y a, dans le contexte ici, une opposition au royaume avec la mort de Jean-Baptiste. Il y a un grand miracle extraordinaire que Jésus est en train d'accomplir. Les disciples sont tellement boostés, encouragés. Et il y a la foule maintenant qui désire qu'on fasse élire Jésus comme roi. Et dans ces circonstances, eh bien, c'est Jésus qui demande aux disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Je m'occupe de la foule. Et puis les disciples, voilà, je vous ordonne d'aller de l'autre côté de la mer. Alors je vais vous montrer en géographie rapidement. Je ne voudrais pas être trop long. Je vais juste vous montrer une carte. J'espère que ça va paraître assez clairement. Bon. Voilà, ça c'est la carte de la Galilée, du temps de Jésus. Vous avez ici la mer de Galilée, n'est-ce pas? En fait, les disciples, on voit qu'ils se trouvent dans le contexte d'autres évangiles, à Bethsaïda, ce n'est pas mentionné dans l'évangile de Matthieu. Ils doivent aller à Capernaum ici, sachant que la mer de Galilée, ou lac de Génégraset, fait à peu près, je l'ai mis sur le côté, c'est ça, fait 20 km de long, 12 km de large, voilà, la longueur ici, bon, mais ça ne marche plus, De large, ça fait à peu près 12 km. Donc, entre Bethsaida et Capernaum, il y a à peu près, en remettant à l'échelle, à peu près 5 km. Et puis, ça se trouve que, en Jean chapitre 6, tout ça pour vous dire qu'en Jean chapitre 6, l'auteur mentionne un détail qui ne se trouve pas en Matthieu, on va aller vraiment après en Matthieu, où il est écrit, étant monté dans une barque, il traversait la mer pour se rendre à Capernaum, donc on sait leur destination. Il faisait déjà nuit, donc c'est le soir. Jésus ne les avait pas encore rejoints, il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer. Ils se retrouvent en pleine mer. Et j'ai calculé que la distance entre Bethsaida et Capernaum est exactement la distance qu'ils ont parcourue sans atteindre le but. Alors, pour moi, il y a un grand principe, et on va voir les principes les uns après les autres. Premièrement, les disciples ont vécu l'extraordinaire du miracle de la multiplication des pains. Quand on est béni par le Seigneur, on a envie de rester un petit peu sur l'Himalaya, n'est-ce pas ? Et là, on goûte à une paix, une bénédiction particulière. On a juste envie de rester là. On voudrait que ça reste comme ça pour toujours. Des moments de paix particuliers, de bénédiction, de réjouissance, de louange, d'adoration en esprit du Seigneur. On voudrait juste que ça reste là. Mais vous savez, le Seigneur parfois a d'autres plans. Parce que son désir, c'est de créer en nous l'image de son Fils. Et il prend l'épreuve, il permet l'épreuve pour nous tester. Alors, ce n'est pas parce qu'on est béni que Dieu ne va pas tester notre foi et permet des épreuves dans notre vie. Parfois, le chrétien se dit « je suis éprouvé et Dieu ne me bénit pas ». Non, c'est peut-être parce qu'on est éprouvé, juste parce qu'on est éprouvé, qu'on est justement béni par le Seigneur. Nous devons voir les choses comme Dieu les voit. Et donc, le principe ici, c'est que Jésus-Christ, même s'il nous bénit, permet que son enfant soit éprouvé dans sa foi. Et la raison, ça se trouve, alors tournez avec moi, et ensuite on regardera verset par verset ce chapitre 14, mais en Jacques chapitre 1, on a la raison du test de la foi. L'épreuve de la foi se trouve dans tout l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Vous savez comment Paul, par exemple, a supplié le Seigneur d'enlever cette écharde de sa chair, et le Seigneur lui a dit « ma grâce te suffit ». Et Paul a compris que c'est dans la faiblesse que s'accomplit la puissance de Dieu. Il y a des raisons à nos épreuves. Et Dieu est le seul capable de transformer le mal en bien. Dieu est le seul capable de prendre les circonstances de nos vies pour nous façonner à son image et de glorifier son nom. Donc dans l'épreuve, nous pouvons bouder, nous pouvons râler, nous pouvons nous mettre en colère, nous pouvons nous rebeller, nous pouvons avoir toutes sortes de réactions, ou nous pouvons accepter la leçon spirituelle de cœur que Dieu va accomplir dans nos vies et qu'il est en train de commencer dans notre vie. Comme une œuvre parfaite, c'est ce que nous dit Jacques ici. Mes frères, au verset 2, chapitre 1, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve, et là c'est pas le même mot grec, on pourrait traduire le test de votre foi, produit la patience. Tiens, Dieu a une œuvre dans l'épreuve qui a pour but de produire la patience. Comme a dit quelqu'un, j'ai mentionné mardi dernier, excusez-moi, on est parfois impatient de devenir patient, n'est-ce pas ? Mais le Seigneur a une œuvre à accomplir. Et qu'est-ce qu'il est écrit au verset 5 ? Au verset 4, il faut que la patience accomplissent parfaitement son œuvre. Ici, dans le mot parfait, il y a l'idée de compléter, de rendre mature, d'achever quelque chose pour le rendre parfait, un perfectionnement, afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. L'épreuve nous est donnée afin de mûrir dans le Seigneur, et même si on n'a pas envie d'être dans une épreuve, comme parfois on n'a même pas choisi, parce qu'il faut dire qu'il y a des épreuves dans lesquelles le croyant se place et qu'il en est responsable, il vaut mieux confesser ses erreurs, mais il y a des épreuves, des circonstances qui ne dépendent pas toujours de nous. Et pourtant, Dieu a une solution à cela. Dieu permet des épreuves de toutes sortes, on n'a pas le temps de développer les différentes sortes d'épreuves ce matin, ou les types d'épreuves que Dieu permet dans nos vies, mais il permet des épreuves et il a un but pour cela, de faire une œuvre en chacun de nous. Alors c'est comme si Dieu prend le granit, un morceau de granit, que nous sommes, un peu durs, non ? Parfois. Et Dieu prend le burin de l'épreuve pour façonner une image à la gloire de Dieu. Je me souviens, j'ai un copain d'enfance qui a passé le bac, dit moi je veux, c'est un élève assez philosophe, disons, assez brillant d'ailleurs, il dit moi je veux devenir sculpteur, il était toujours en train de dessiner dans tous les cours où il était, et il est devenu sculpteur à la Crouzette où il y a des exploitations de granit et des carrières de granit. C'est merveilleux parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un sculpteur qui est reconnu. Mais sculpter dans le granit, ça demande tout un art. Et le Seigneur a cet art, cette habilité de façonner quelque chose dans nos vies, parce que nous sommes un peu durs, n'est-ce pas ? Et Dieu trouve bon par les burins, le burin des épreuves, de nous façonner à l'image de son Fils Jésus-Christ. Voilà. Dans ce passage, et je finis l'introduction, dans ce passage, en fait, il y a 4 miracles. Il y a le miracle de Jésus qui marche sur les eaux, c'est extraordinaire, et c'est ça qu'on souligne en premier lieu, mais aussi le miracle que Jésus apaise la tempête. Il y a aussi le miracle que Pierre marche sur les eaux, imaginez, qui n'a pas osé, qui n'aimerait pas vivre cette expérience, même si pour elle c'était particulièrement testant. Et puis il y a un autre miracle que l'on lit en Jean chapitre 6, qui est assez extraordinaire, dans le contexte toujours de la traversée de la mer de Galilée. Il est écrit au verset 21, « Il voulait donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. » C'est bizarre. Il y a l'épreuve, mais quand Jésus est là, alors qu'ils sont dans la volonté de Dieu, puisque c'est Jésus qui leur a demandé de traverser la mer de Galilée, il y a des difficultés, mais quand Jésus est présent, tout d'un coup, la barque, par miracle, je ne sais pas, c'est un hors-bord, tout d'un coup, même pas, il n'y a pas un moteur, tout d'un coup Jésus met dans la barque. Tout d'un coup la barque, par miracle, se trouve du milieu du lac. Ils ont fait 5 kilomètres, mais pas dans la bonne direction. Ils sont perdus, égarés. Ils voient même un fantôme, ils ont une frousse terrible. Dieu les amène exactement là où il voulait les amener, à Capernaum. Alors examinons le texte un petit peu. Reconnaissons que Dieu permet des épreuves dans notre vie, et même c'est Jésus qui oblige les disciples à monter dans la barque. Vous n'avez jamais dit « Oh ben moi je regrette de m'être fait embarquer dans cette affaire, si j'avais su ». Et peut-être que Dieu a permis cela parce qu'il est souverain. Il est souverain de nous amener à un endroit où on n'a pas envie d'aller. Et même il nous oblige, par les circonstances ou les événements, il nous amène à un endroit où on n'a pas du tout envie d'être, qui est l'endroit de la tempête. Qui a envie de traverser des tempêtes ? Ma femme et moi, je me souviens, nous avons fait quelque chose de terrible. Nous étions dans une réunion de missionnaires à Québec, à un endroit, on a dû rentrer à Québec, on est tombé dans une tempête de neige. Alors on avait entendu parler des tempêtes, puis on en avait traversé plusieurs, mais quand vous ne voyez pas plus loin que 10 mètres, et que vous savez que c'est le soir, que la nuit peut tomber avec une froideur, un froid terrible, et que si vous tombez en panne, vous pouvez geler dans la voiture, vous vous dites vraiment, là je suis peut-être en danger, n'est-ce pas ? Alors on a peut-être traversé des différentes épreuves, mais ceci dit, ce que je vais vous dire, hein, le premier principe, c'est que quand on est béni, ça ne veut pas exclure qu'il va y avoir des épreuves. Et le deuxième principe ici, quand on est dans la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des épreuves aussi. C'est Jésus qui les a obligés à traverser la mer. Donc est-ce qu'ils sont dans la volonté de Dieu ? Si Dieu nous demande quelque chose, est-ce qu'on est dans la volonté de Dieu ? Oui. Et pourtant, dans cette volonté, ils sont éprouvés. Donc ce que nous devons retenir, ce n'est pas parce qu'on est éprouvé qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Et parce que peut-être on est dans la volonté de Dieu, on va être particulièrement éprouvé parce que Dieu est souverain de toutes choses dans nos vies. Donc reconnaissons que si nous sommes dans la volonté de Dieu, acceptons que Jésus puisse nous permettre qu'on puisse être éprouvé. Vous avez déjà lu le livre de Job ? Moi, je l'ai compris ce livre quand j'étais à l'hôpital, je vois à Québec, plusieurs jours à l'hôpital, et j'ai compris enfin le livre de Job. En tout cas, Job a eu une vie assez extraordinaire, n'est-ce pas ? Et on voit que Dieu a permis que le diable le tente. Est-ce que Job avait envie d'être tenté par le diable ? Pas du tout. Mais il a perdu enfin, il a perdu tous ses biens, mais il n'a jamais maudit Dieu. Puis à la fin de son livre, il fait une expérience avec Dieu qui fait que maintenant il connaît Dieu. Donc Dieu a permis dans sa souveraineté que Job soit tenté, éprouvé, Mais le bien que Job en a tiré est extraordinaire parce qu'il a connu Dieu d'une façon qu'il n'aurait jamais peut-être connue auparavant. Et c'est même lui qui dit, hein, qui prophétise la résurrection de Jésus, entre autres, « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Alors dans l'épreuve, Dieu a quelque chose à accomplir et c'est lui qui fait ce chef-d'œuvre en nous. Parfois nous sommes maladroits parce qu'on aimerait l'aider un petit peu, que ça aille plus vite. Si l'épreuve pouvait passer, ce serait tellement mieux pour moi. Mais Dieu permet l'épreuve pour accomplir ses desseins. La patience. Moi, je reconnais dans ma vie que je suis un impatient. Et Dieu a une patience envers moi. Et je dois accepter qu'avec patience, Dieu accomplit une œuvre en moi. Vous savez, quand on plante quelque chose pour la première fois, on a envie de tirer dessus pour que ça aille plus vite. Et on détruit tout. Et parfois, dans l'épreuve, on a envie de tellement bouger que finalement, on est en train de tout détruire. L'œuvre que Dieu est en train d'accomplir. Ce n'est pas d'être passif, mais c'est d'être actif dans le sens « Dieu, qu'est-ce que tu as à m'apprendre au travers de mon épreuve ?» Alors, c'est facile à lire, je vous le lis. Il ne faut pas le lire, n'est-ce pas, à toute personne qui est éprouvée en disant « Voilà, j'ai un verset pour toi, écoute. » Parce que quand on est éprouvé soi-même, peut-être qu'on n'aimerait pas le recevoir aussi directement. Mais la Bible dit, et c'est le sens du pourquoi de l'épreuve, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Je veux dire, mais non, mais c'est facile. Vous avez déjà perdu un être cher. Vous avez déjà été attaqué dans votre santé. Vous avez déjà tout perdu, vos biens. Vous avez eu une rupture de cœur ou quelque chose qui vous a fait mal. Alors, non, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu nous appelle et Dieu a un dessein. Un dessein. Attendez, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui a un dessein. Il a un but, une raison d'être de notre épreuve. Car ceux qu'il a connus d'avance, et voilà la raison d'être, car ceux qu'il a connus d'avance, il connaissait déjà que nous allons l'accepter. Il nous a prédestinés à quoi ? À être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. On ne va pas arriver au ciel comme des touristes qui arrivent, voilà, c'était bien sur la terre, tu m'as béni. On va arriver au ciel bien brisé. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire avec Dieu. Dieu s'est engagé à ce que nous passions l'éternité avec lui, mais il a le droit, puisqu'il est notre Père, en plus notre Maître à qui nous appartenons, de modifier un petit peu, n'est-ce pas, son enfant avant qu'il arrive au ciel, pour qu'au ciel, sa gloire éclate d'autant plus en nous. Et donc la Bible dit, prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Comment était Jésus ? Parfait en amour, parfait en patience, parfait en grâce, parfait en endurance, parfait en souffrance, et ainsi de suite, vous avez compris. Jamais rebelle contre son Père, toujours dépendant avec Dieu le Père. Et Dieu l'a béni. Et voilà le modèle qu'il a devant nous. Alors qu'est-ce que Dieu veut faire ? Bien, il veut maintenant qu'on ressemble à son Fils Jésus-Christ, avec qui on va passer l'éternité. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Voilà, ça c'est consolant, n'est-ce pas, dans l'épreuve. Lui qui n'a point épargné son propre Fils. Voilà, maintenant Dieu me demande de tourner mes regards vers lui, de considérer son amour. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des épreuves, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Dieu est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Là, c'est appliqué à la persécution. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors quand on prie pour ses frères et sœurs persécutés qui souffrent tellement, et qu'on prie que Dieu leur donne la victoire, et qu'ils sont vainqueurs, ils ont certainement une foi un peu plus étoffée, n'est-ce pas, dans l'épreuve que nous, dans notre confort, à l'aise, où on pense être éprouvé. Mais on ne sait pas ce que c'est que la vie d'un chrétien persécuté. Et peut-être que nos misères, qu'on présente devant Dieu en se plaignant, peut-être que pour d'autres croyants, ce serait tellement peu, tellement peu. Alors relativisons nos épreuves, n'est-ce pas ? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les nominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà notre assurance. Dans l'épreuve, Dieu ne change pas. Dieu peut concourir toutes choses en notre faveur parce qu'il nous aime. Et c'est le piège dans l'épreuve de croire que Dieu a cessé de nous aimer. C'est ce que le diable nous souffle dans l'esprit. Est-ce que tu crois que Dieu t'aime encore? Et c'est peut-être ce qu'on pense dans notre chair et incrédulité. Mais l'amour de Dieu ne change pas. Dieu est le même, Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le même amour qui l'a poussé à donner son Fils à la croix et le même amour maintenant qui le pousse à nous aimer là où nous sommes, comme nous sommes, parce qu'il nous voit en Christ. Donc n'oublions pas cela, c'est un cadre qu'il fallait, je pense, noter. Alors si on revient et on va défiler les versets les uns après les autres et trouver les principes qui sont bons pour nous à appliquer dans nos vies. Alors au verset 22, on a vu que Dieu dans sa souveraineté, malgré que je sois dans la volonté de Dieu, permet qu'il y ait des épreuves dans ma vie. Au verset 23, il est écrit « Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était la seule ». Qu'est-ce que Jésus est-il en train de prier? On ne sait pas. Certainement, il priait pour que la volonté du Dieu, le Père, s'accomplisse dans sa vie, parce qu'il a dit « ma nourriture de faire la volonté de Dieu, mon Père ». Et Jésus était toujours dépendant de Dieu, le Père. Certainement, il adorait Dieu, le Père. Il était réconforté dans son cœur. Il priait certainement pour la foule qu'il venait de nourrir, pour que non seulement il découvre la nourriture du miracle de Dieu, peut-être la puissance de Dieu qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais qui se nourrit spirituellement et qui croit vraiment que Jésus est le Sauveur. Et certainement, vous avez compris, il devait prier pour ses disciples. C'est lui qui les a envoyés. Vous croyez que Dieu nous envoie, puis débrouille-toi? Il les a obligés à prendre la barque, à aller traverser la mer. Et certainement que Jésus maintenant est en train d'intercéder pour eux. C'est merveilleux cela. Dieu dit dans les Écritures que Jésus intercède pour nous. En tant que jeune croyant, lorsque quelqu'un m'a dit « Mais sais-tu que Jésus intercède pour toi jour et nuit ?» J'étais bouleversé, j'avais du mal à le croire parce qu'on ne m'avait jamais enseigné cela. La Bible dit par exemple en 1 Jean 2, verset 1 et 2, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Bon, c'est dans le contexte du péché. « Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le juste, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Un avocat, un paraclet qui plaide du côté de Dieu en notre faveur. » Vous vous sentez abandonné? Soyez pas abandonné. Et vous n'êtes jamais... On dit non, jamais tout seul. Mais c'est vrai, Jésus est là. Il intercède jour et nuit en notre faveur. Je veux dire, mais il doit être bien occupé avec tous les millions de chrétiens qu'il y a sur la terre. Ouais, mais Dieu te connaît. Hein? Il connaît le long de tes cheveux. Alors Dieu ne t'abandonne pas. Il est là, il intercède pour toi. Il y a un autre passage qui dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu pour lui, par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Dieu nous a sauvés par l'amour de Jésus et il ne nous abandonne pas. Et Jésus continue à nous aimer. Et une façon avec laquelle il le fait, c'est de jamais cesser d'intercéder pour nous, ses enfants. Son principal ministère dans le ciel, Jésus, c'est de prier pour nous. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'on est l'objet de son amour? Oui. Alors au verset 24, il est écrit « La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. » C'est bizarre. Je suis dans la barque que Dieu m'a demandé de me placer pour traverser la mer. Et puis le vent est contraire. Comment ça se fait? Je suis dans la volonté de Dieu et il me semble que je vis exactement l'opposé de ce que Dieu voudrait, je suis pressé d'aller à Capernaum, et voilà que je m'égare dans quelques tempêtes. Est-ce que je suis vraiment dans la volonté de Dieu? Pourtant, Dieu m'a dit d'aller par là. Être dans la volonté de Dieu ne signifie pas qu'on n'aura pas à faire face à de l'opposition. La Bible dit, Paul disait à Timothée, « Combat, le bon combat de la foi ». On aimerait, n'est-ce pas, être sur terre, déjà comme dans le paradis, et puis ne pas avoir d'opposition. Mais l'opposition est là partout. Il y a l'opposition du péché dans nos vies, notre chair qui veut combattre contre le Seigneur. Il y a le monde qui combat contre nous. Et puis il y a le diable. Et la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les dominations et les autorités. Oui, le chrétien qui est dans la volonté de Dieu, il va faire face à de l'opposition. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus dans la volonté de Dieu. Nous devons faire attention que ce qui nous oppose n'est peut-être pas dû à un péché dans nos vies, mais qu'au travers de cela, Dieu a peut-être quelque chose à nous montrer, à augmenter notre foi. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. L'opposition n'est pas synonyme qu'on est en dehors de la volonté de Dieu. Maintenant, c'est vrai que l'enfant de Dieu qui s'égare, qu'est-ce que Dieu fait ? Il le châtie, il le ramène vers lui et il s'oppose à son enfant. Donc, quand on est face à Dieu et que Dieu s'oppose à nous, on est en réel danger, je peux vous dire. Parce que quand on lit dans l'Ancien Testament comment Israël s'est éloigné de Dieu et que Dieu dit maintenant, je tourne ma face contre vous, moi je crains terriblement ça, je peux vous le dire. Parce qu'avoir Dieu contre soi, c'est terrible. Et quand Dieu avait décidé de châtier Israël, il l'a fait très sérieusement. Mais ça, c'est Dieu qui s'oppose à ses enfants qui s'éloignent de lui. Mais quand on est dans sa volonté, qu'il y a l'opposition, c'est peut-être justement parce qu'on vit quelque chose de spirituel où Dieu nous a placés. Combat, le bon combat de la foi. Ne soyons pas étonnés que nous ayons parfois de l'opposition dans nos vies. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas, encore une fois, dans la volonté de Dieu. Au verset 25, il est écrit « À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. » Alors, croyons à l'intervention de Dieu et au miracle lorsqu'on est dans l'épreuve. Maintenant, j'aimerais faire une marque, c'est que c'est Dieu qui a choisi le moment où Jésus est apparu. Au début de l'épreuve, on aimerait que Jésus apparaisse comme ça, n'est-ce pas ? Immédiatement, « Seigneur, tu es tout puissant, je le crois, enlève donc cette pécadille d'épreuve dans ma vie. » Et puis Dieu tarde, mais il apparaît tout tard. Savez-vous combien de temps, à peu près, on peut calculer l'épreuve, la durée de l'épreuve des disciples dans la barque ici, dans la tempête? 9 heures. Donc des fois, le temps de Dieu et de sa réponse demande peut-être un peu plus d'intercession, ou un peu plus de soumission, ou un peu plus de brisement, ou d'attente, de foi, de confiance. Mais tôt ou tard, Dieu intervient. Ne serait-ce que de donner la grâce de traverser l'épreuve. Dieu n'enlève pas toujours l'épreuve, mais il peut permettre la grâce de traverser. Là, dans ce cas, il enlève l'épreuve, il apaise la tempête. Mais le point que je veux souligner ici, c'est que Dieu est intervenu. Dieu intervient dans les affaires de ses enfants, dans les circonstances de ses enfants. Mais Dieu reste souverain. Il nous met dans sa volonté, il nous embarque quelque part, et il reste souverain dans la façon avec laquelle il va intervenir. Et là, il intervient de façon assez extraordinaire. Quand les disciples virent, verset 26, marcher sur la mer, ils furent troublés, dire « c'est un fantôme ». Alors Jésus, parfois, intervient dans nos vies, puis on le discerne pas. Des fois, il parle par quelqu'un d'autre, des fois, il agit d'une manière ou d'une autre, il utilise des circonstances, et Dieu est en train de faire quelque chose, et puis on ne le voit pas que c'est lui. Et là, dans ce cas, évidemment, vous avez compris, ils pensent que c'est un fantôme. Vous savez, tous les marins ont peur d'une chose en mer. Quoi ? Le fantôme. Je ne parle pas des triangles des Bermudes, là, mais en fait, le fantôme. C'est quelque chose qui était, à cette époque-là, les gens craignaient, en tant que marins, de voir le fantôme. Et là, Jésus apparaît. Il apparaît dans ce qu'ils craignent le plus, au sein de la tempête. Voyez-vous, des fois, Dieu est quand même surprenant. Mais il apparaît d'une façon surnaturelle. C'est donc que cela nous étonne. Et je vais tout simplement faire l'application suivante. C'est que le surnaturel est parfois irrationnel. Ça ne veut pas dire que Dieu veut qu'on devienne irrationnel. Dieu nous a créés avec une volonté, des émotions et une intelligence. Mais parfois, la façon dont il intervient est irrationnelle par rapport à notre petite raison. Et il faut accepter que les miracles de Dieu, lorsqu'il les accomplit, dans ses interventions dans nos vies, sont parfois très différentes de ce qu'on a pensé qu'il pourrait faire. Vous n'avez jamais remarqué dans vos vies qu'on a envie de dire au Seigneur le miracle exactement qu'il doit faire, comment il doit le faire. On est en train de mettre Dieu à notre portée, on fait de Dieu, on humanise Dieu, mais Dieu n'est pas comme ça, Dieu est Dieu. Je suis Dieu, sachez que je suis Dieu, et j'accomplis mes œuvres comme je veux les accomplir. Et au temps où je les accomplis et de la façon où je le fais. Mais sachez que je vous aime et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais je fais l'œuvre comme je veux l'entendre de la faire. Alors on est parfois étonné ou on trouve étrange la façon avec laquelle Dieu intervient. Un autre principe se trouve au verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Je pense qu'au sein de l'épreuve, nous avons besoin d'être rassurés par des paroles de consolation. Dieu peut utiliser des paroles de consolation de nos frères et sœurs. Dieu peut utiliser sa parole, Dieu peut utiliser son esprit dans nos vies, mais on a besoin de sa présence. Et sa présence nous rassure. Et je pense à ce verset tout simple qui dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il n'y a pas un moment dans notre vie, il n'y a pas une épreuve où on se sent tellement coupé de Dieu que Dieu n'est pas là. Et même au contraire, je dirais que, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire les livres de l'église persécutée du pasteur Van Brandt, qui était un homme qui est resté 14 ans en prison, et il redoutait une chose, c'était de sortir en prison tellement il avait goûté que le Seigneur était bon et vivait dans sa prison, un petit paradis, et même il a dit qu'il avait été ravi au troisième ciel comme l'apôtre Paul, parce que la présence de Dieu vaut mieux que une heure dans ta présence vaut mieux que tous les que 1000 jours ailleurs. Et puis la Bible dit qu'ainsi tout homme pieux te prie autant convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. Nous devons donc patienter, attendre que la présence de Dieu se manifeste, mais tôt ou tard, elle va se manifester. D'abord, croyons aux promesses de Dieu pour apaiser nos cœurs. Nous avons besoin, face aux épreuves, d'avoir des promesses. Soulignez dans vos Bibles des promesses qui vous tiennent à cœur, qui vous montrent que Dieu est là. N'ayez pas peur. Et puis sa présence, tôt ou tard, va vous rassurer. Et quand on a la paix de Dieu, une fraction de seconde par rapport à une épreuve, c'est pratiquement la fin de l'épreuve. On sait que Dieu est là. Et si Dieu est là, il peut tout. Et donc avec lui, je peux tout. Comme dit Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est donc sa présence surnaturelle, essentiellement, dont nous avons besoin. C'est pour cela que nous devons cultiver sa présence et marcher par la foi. Alors Pierre lui dit, « Seigneur, c'est toi, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » On traite toujours de Pierre d'impulsif, n'est-ce pas? C'est le sanguin. Il bouge, à peine, il y a quelque chose qui se passe, et premier à pousser sur le bouton, il enclenche tout. Et on peut dire, « Ouais, mais là, il a manqué de foi quand même. Il a marché sur les eaux, puis d'un coup, il s'est enfoncé quand même, Pierre. » Oui, mais imaginez qu'on soit dans la barque, nous. Qui aurait osé dire, Seigneur, si c'est toi, permets que je marche. Je ne sais pas quel est celui parmi nous ou celle qui aurait osé faire ça. Donc ne jugeons pas Pierre, mais soyons plutôt en admiration de son courage, n'est-ce pas? Il est allé marcher sur les eaux agitées de la mer, et les eaux agitées dans la Bible, c'est toujours les eaux du monde. Et nous vivons ainsi de façon surnaturelle, on viendra sur ce point un petit peu plus loin. Et la question ici est celle-ci, sommes-nous prêts à vivre par la foi? À l'exemple de Pierre. Quand Dieu nous donne un ordre, sommes-nous prêts à faire un pas de la foi qui est peut-être contre la raison, mais en tout cas qui manifeste qu'on a compris quelque part l'intervention de Dieu. Un petit pas dans la foi peut amener un grand pas avec le Seigneur, mais c'est le premier pas qui compte. Alors Pierre, il a débarqué, je ne sais pas s'il a eu le temps de savoir si l'eau était fraîche ou pas, mais enfin il avait été pas mal aspergé avant, je pense, par la tempête, puis il a marché sur les eaux, c'est extraordinaire cela. Mais s'il n'avait pas fait le premier pas, il n'aurait pas marché sur les eaux. Si Moïse n'avait pas fait le premier pas pour ouvrir la mer ne se serait pas ouverte. Il a levé le bâton et la mer s'est ouverte. Les miracles de Dieu s'accomplissent lorsqu'on fait un premier pas de la foi. Mais attendez, ce n'est pas de la présomption, c'est les yeux fixés sur le Seigneur. Je me souviens d'un copain que j'avais eu l'occasion d'amener au Seigneur, mais qui avait perdu sa femme après 3 mois de mariage, c'était assez dramatique. Et il m'a raconté qu'il venait de Belgique, alors il était dans une école d'interprète à Mons, en Belgique. Et alors il a dit, je m'en vais, et sa voiture, il n'avait pas trop d'essence. Il a dit, par la foi, je m'en vais. Et évidemment, il a dû téléphoner à ses parents d'urgence pour qu'ils puissent le secourir. Il n'avait pas d'argent pour payer l'essence nécessaire. Il a compris qu'on ne tente pas Dieu. Ça, c'est la présomption. Mais à partir du moment où nos yeux sont fixés sur le Seigneur et Dieu apparaît, alors nous avons le droit de faire un pas de la foi. Mais, vous allez me dire, c'était un peu dangereux dans le cas de Pierre, oui, mais il avait les yeux fixés sur le Seigneur. Il a fait ce premier pas de la foi. Nous reconnaissons que parfois nous avons même du mal à faire le premier pas de la foi. Dieu veut nous conduire plus loin dans la foi, mais ce premier pas coûte. Parce que c'est s'abandonner entièrement entre les mains du Seigneur. Bon, on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus. Et au verset 29, il dit, viens, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Miracle, imaginez cela. Un homme qui marche sur les eaux. Vous connaissez la blague? Je ne sais pas si je vais oser dire ça. Bon, je l'ai dit, j'ai commencé. On va se détendre quelques secondes, d'accord? Avant d'aller plus loin. Vous connaissez l'histoire du prêtre? Du prêtre qui est dans une barque? Oh, qu'est-ce que je vais dire là? Du rabbin qui est dans une barque et du pasteur. Et à un moment donné, ils sont loin de la barque, ils ne savent pas nager. Et puis le rabbin dit, mais Jésus n'a-t-il pas marché sur les eaux? Hop, il sort de la barque, il marche, il va sur le bord de l'eau, et il arrive et le prêtre est tout abasourdi, il dit, ben oui. Et puis le pasteur dit, c'est vrai, Jésus a marché sur les eaux, moi aussi, regarde, il marche sur les eaux, puis il arrive à l'autre bord. Ah, le prêtre dit, ils ont la foi, le rabbin et le pasteur, moi aussi je dois faire la même chose. Il met le pied dans la barque, il s'enfonce. Bon. Après, le pasteur et le rabbin lui disent, mais tu sais, on aurait dû lui dire où se trouvaient les bonnes pierres pour marcher. Bref. Bon, c'est une petite blague. Vous pouvez l'oublier, hein. C'est pas ça qui est important. Hein. D'accord, c'est les blagues plates et longues, comme on dit, hein, comme les planches. En fait, c'est Jésus qui nous appelle sur le terrain de la foi, afin que nous marchions par la foi. Ça me fait penser à une illustration bien meilleure, mais c'est une réalité. J'ai lu une fois dans la biographie d'un missionnaire qui se trouvait en Inde, et il y avait des gens qui marchaient sous une certaine puissance sur des charbons rougis au feu. Et on l'a pointé du doigt. Il dit, toi le missionnaire, ton Jésus, il est aussi puissant que notre Dieu. Est-ce que tu peux marcher sur ces charbons? Alors les autres avaient même quitté les chaussures et puis ils marchaient sur les charbons rougis. Ah, là, il a dû prier fort, hein, je peux vous dire. Il était au pied du mur, pour ne pas dire au pied de quelque chose de brûlant. Il était dans la fournaise ardente, hein, comme les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Eh bien, il a quitté ses chaussures, il a dit mon Seigneur est puissant, il a marché sur les charbons ardents. Enfin, si vous n'êtes pas sûr, ne faites pas. Hein. Mais c'est ça le pas de la foi. Est-ce que nous croyons que Dieu est suffisamment puissant pour répondre à des choses surnaturelles? En fait, j'aimerais dire une chose. Pierre, tant qu'il avait les yeux fixés sur le Seigneur, il marchait sur les eaux et c'est un miracle. Mais quand nous marchons avec le Seigneur, c'est aussi un miracle d'être rempli de son amour, d'être rempli de sa paix, d'être rempli de son esprit, donc du fruit de la paix, l'amour, la paix, la joie, etc. De vivre par la puissance de son esprit, de comprendre les Écritures, c'est un miracle. Mais nous vivons ce miracle permanent parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, parce que nous avons les yeux fixés sur le Seigneur. Si nous nous détournons de Dieu, ben nous perdons l'amour, nous perdons la joie, nous perdons la fidélité, nous perdons l'enthousiasme, nous perdons le don de soi, le don de donner, le don, etc. Pourquoi? Parce que nos yeux ne sont plus fixés sur le Seigneur. Vous savez, le miracle de marcher sur les eaux, c'est la même chose à laquelle Dieu nous invite à vivre en tant que croyants. Nous marchons de façon surnaturelle, parce que Jésus veut l'accomplir en nous. C'est merveilleux. C'est quand je faiblis, que je reconnais que je ne peux rien, que Dieu peut tout. Et c'est vivre par la foi. La foi, c'est détourner les yeux de soi, du monde et des autres, pour se tourner vers Jésus et croire qu'en lui. Vous êtes dans une tempête. Ayez les yeux fixés sur Jésus. C'est lui qui va apaiser la tempête. C'est lui qui va faire le miracle. Mais nos yeux doivent être fixés sur lui. Et au verset 30, mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commença à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Et c'est vrai que le croyant, lorsqu'il commence à faiblir, il commence à noyer, à faire la trempette, et puis à couler, il crie vers le Seigneur. Je me souviens d'un ami qui était dans l'Atlantique, et qui, à un moment donné, alors qu'il était un bon nageur, s'est vu en train de se noyer, finalement, la lame de fond l'emportait et l'enfonçait, et là, il a dit, mais il faut que j'appelle au secours. Il a crié, et le secouriste est venu, et il l'a sauvé. Mais s'il n'avait pas crié, peut-être qu'il aurait été noyé. À un moment donné, on doit crier à Dieu. Est-ce que vous avez déjà supplié Dieu de ne pas couler? Parce que vous êtes en train de couler. Mais ce n'est pas bon de couler. C'est pas par prétention que vous marchez de façon surnaturelle. La vie chrétienne est une vie de miracles. On n'a pas besoin de marcher sur les eaux pour découvrir le miracle de Jésus dans nos vies, qui est quotidien. On n'a pas besoin de signes extraordinaires. Nous croyons déjà que Jésus est le Fils de Dieu, nous l'avons accepté. Maintenant, il suffit juste de se reposer sur son œuvre et de le laisser accomplir sa vie au travers de nous. Mais vous savez, Dieu trouve ça compliqué avec nous parce qu'on obstrue les canaux de la bénédiction par nos péchés, notre chair, notre propre volonté, notre raisonnement, notre propre volonté. Nous ne laissons pas Dieu, Jésus, vivre en nous. Mais la vie chrétienne est une vie surnaturelle. Et c'est vrai que la mer qui nous entoure est houleuse. Et c'est vrai que chacun de nous, on a eu des tempêtes. Tempête de la perte d'un être cher, tempête du divorce. C'est très douloureux cela. Tempête de la maladie, tempête de manque de ressources matérielles, tempête du chômage, tempête de difficultés peut-être pour certains à l'école, aux études, les examens. Il y a toutes sortes de tempêtes, tempêtes relationnelles. Mais Dieu, dans la tempête, nous demande de garder les yeux fixés sur lui, même si notre foi est faible et notre regard est souvent bien court. Dieu est tout-puissant. Et par son amour, il veut pleinement se révéler à nous. Vous êtes dans une tempête ce matin, quelle qu'elle soit. Je pense que chacun de nous, on a nos tempêtes. Il faut le reconnaître. Eh bien, ayons les yeux fixés sur Jésus. Il apaise nos tempêtes. On est dans sa volonté. Et même s'il permet des épreuves, alors il va se glorifier. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il intervient de suite. Aussitôt Jésus étendit la main, au moment où on coule, il nous tend la main. Il tend la main et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi tu doutais? Alors il nous secourt, mais quelque part il a le droit de nous reprocher notre manque de foi. Parce qu'il faut dire que nous manquons souvent de foi. Ce n'est pas un péché qui est souvent proclamé ou mentionné. Mais l'incrédulité est un péché. Vous n'avez jamais été convaincu par Dieu de l'incrédulité de votre cœur. Moi, j'ai été convaincu par Dieu plusieurs fois. Oui, donc ta foi, c'est une question de foi, ce n'est pas une question de raisonnement, de volonté, de sentiment. C'est une confiance en Dieu. Et lorsque nous avons confiance, Dieu intervient. C'est une question de foi. Pour le suivre sur le terrain surnaturel, nous avons besoin d'avoir une foi ferme, inébranlable. Et peut-être qu'au tribunal de Christ, le Christ nous dira « Pourquoi, comme Pierre, as-tu douté, gens de peu de foi ?» Nous aurons peut-être ce reproche de la part du Seigneur. Peut-être il ne nous reprochera pas tout ce à quoi on pense essentiellement. Peut-être il nous reprochera notre manque de foi, de n'avoir pas cru en lui comme on aurait dû croire en lui parce qu'il s'est révélé à nous. Gens de peu de foi. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Le doute, n'est-ce pas? Jacques dit qu'on n'obtient rien à cause du doute. Et le doute est une gangrène dans notre vie qui fait qu'on ne marche pas avec le Seigneur. Et on doit aller vers au pied de la croix et demander pardon au Seigneur de ce péché. Certainement, il a pris sur la croix, mais on doit aller vers lui demander pardon. Nous manquons de foi. Et c'est pour ça que nous restons parfois dans la tempête. Parce que nous ne sortons pas de la tempête par la foi. Si nous sommes y entrés sans avoir les yeux fixés sur le Seigneur, alors nous devons apprendre à crier et à aller vers Dieu. Nous avons besoin de croire que Jésus a la puissance d'apaiser nos tempêtes. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Quand Jésus est présent dans nos vies, il transforme nos vies. Il transforme les tempêtes en apaisement. Alors, en son temps, encore une fois, mais Jésus intervient, Jésus veut vraiment intervenir dans nos tempêtes. Alors, je ne sais pas quelle est votre tempête ce matin, mais je pense à ce verset en Matthieu 11 qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Parfois, nous prenons des fardeaux qui sont trop lourds pour nous. Nous prenons des fardeaux que Dieu ne nous a jamais confiés. Mais nous ne prenons pas les fardeaux qu'il veut nous confier. Et son joug est doux et léger. Nous nous embarquons dans des affaires où Dieu n'est pas là. Et nous pensons que nous pouvons nous embarquer à des endroits et après demander à Dieu qu'il soit là avec nous. Mais Dieu n'est pas là au départ. Et ce qui fait que des fois, nous maintenons l'épreuve parce que nous sommes à un endroit où Dieu ne veut pas qu'on le soit. Vous avez compris l'idée ici. C'est Jésus qui apaise la tempête. Et le vent, c'est ça. Alors je pense que, imaginez les disciples qui, à 9 heures d'épreuve, ramaient la tempête, la nuit, toute la peur. Tout d'un coup, il voit un fantôme, Jésus est là, Pierre sort de la barque, finalement il coule, Jésus le retient, Jésus monte dans la barque, plus rien, d'un seul coup. Merveilleux, une mer d'huile. La mer de Galilée est une petite mer, mais il peut y avoir des tempêtes, et des tempêtes dangereuses pour les marins. Et là, tout est apaisé. Quand Jésus intervient, il apaise nos cœurs. Vous n'avez jamais eu besoin de l'intervention de Dieu ? Jésus fait toute une différence dans nos vies, parce que la vie n'est pas toujours facile, n'est-ce pas ? C'est lui qui transforme l'amertume, les eaux amères en eau douce, par exemple, même dans les épreuves. Et puis, ce qui est merveilleux, il ne faudrait surtout pas échapper à cela, dans ce texte, ceux qui étaient dans la barque vinrent, quoi faire ? Adorer Jésus. Ici, le principe est simple, c'est que quand on voit Jésus intervenir, qu'il est véritablement le Fils de Dieu dans nos vies, qu'on le voit dans toute sa puissance, à quoi cela nous amène-t-il, après qu'il a apaisé la tempête, à l'adoration ? Peut-être nous avons besoin d'apprendre à adorer plus Dieu. Peut-être nous ne le voyons pas intervenir assez dans nos vies et notre adoration est inexistante ou est peut-être tellement légère devant Dieu ou le cœur n'y est pas parce que nous n'avons pas su peut-être voir Jésus intervenir dans nos vies ou nous n'avons pas eu la foi qu'il intervienne. Vous avez peut-être des jougs dans vos vies, vous avez peut-être des tempêtes que Jésus veut enlever afin que vous puissiez l'adorer et reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Êtes-vous prêt à lui faire confiance ? Avez-vous confiance dans les épreuves que Dieu permet que vous traversiez ? Alors, il y aurait beaucoup de passages, mais je vais juste vous en lire un. En Apocalypse, qui est un endroit où on voit des adorateurs adorer Jésus, au chapitre 1, verset 17, Jean dit, quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Jean, dans la présence de Jésus, est tombé comme mort. Et puis, en Apocalypse, chapitre 5, et verset 8, il est écrit, quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe, des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints, et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Oui, nous pouvons adorer Jésus parce qu'à la croix, son sang nous a purifiés. Il nous a délivrés de nos péchés, il nous a délivrés de la mort, il nous a délivrés de l'enfer. Alors nous pouvons, dans cette barque dans laquelle nous sommes embarqués, le salut, nous humilier devant Jésus et l'adorer. Et l'adorer aussi malgré les épreuves. Et ce n'est pas fini. Parce que si vous lisez le texte avec moi, on termine avec ça. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth, c'est un petit peu plus loin. Les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Vous n'avez pas eu envie, vous, d'assister à ce genre de guérison extraordinaire ? Moi, j'aimerais voir ça. Voyez-vous, malgré les obstacles, lorsqu'on est dans la volonté de Dieu et qu'on traverse l'épreuve par la foi, Jésus intervient, cela nous amène à l'adoration, mais ça nous amène à une expérience beaucoup plus profonde par la suite, qui est le réveil. Le réveil est là. Jésus guérit les malades, tous les malades. C'est la puissance de Jésus qui se manifeste. Il a multiplié les pains et les poissons. Il a apaisé la tempête. Et maintenant, il guérit tout le monde. Et ça, c'est à la vue des disciples. Pour que leur foi augmente. Et reconnaissons que Jésus a fait des miracles dans nos vies. Peut-être qu'il multiplie les pains, peut-être qu'il nous a guéris. Mais aussi, il permet des tempêtes dans nos vies. Mais dans ces tempêtes, lorsqu'on le voit nous délivrer, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, l'homme pieux, les hommes pieux. Lorsque par notre piété on est délivré de l'épreuve, on loue Dieu et on entre dans une autre dimension de vie spirituelle, qui est le réveil personnel. Parce que de nos yeux, on découvre la puissance de Dieu. Dieu est puissant, il fait des miracles autour de nous. Est-ce que nous le voyons agir ? Est-ce que nous avons la foi de le voir agir ? Donc voyez-vous, Dieu a permis tout cela pour que sa gloire éclate, pour que tout l'honneur et la gloire appartiennent à Jésus. Conclusion, Oui, c'est vraiment une conclusion. Dieu a un but pour ma vie. Je résume ce que je vous ai dit. Avant de l'atteindre, il se peut que je passe par différentes épreuves. Dieu me demande d'exercer ma foi. Il se peut que ma foi soit particulièrement testée, à l'exemple de Pierre. Mais au sein de l'épreuve, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, se révèle miraculeusement et puissamment. Témoin de sa puissance, je suis porté à l'adorer. Après avoir été éprouvé, étant amené là où il me voulait, il me fait voir sa gloire. Qu'est-ce que Jésus avait demandé aux disciples ? De traverser et d'aller de l'autre bord. Est-ce qu'ils ont atteint l'autre bord ? Oui, parce que c'était dans la volonté de Jésus qu'ils aillent à Capernaum. Est-ce qu'ils y sont allés ? Oui. Pourtant, ils sont passés par un moment, un détour un peu difficile. Mais ils sont arrivés là. Pourquoi ? Parce que c'est la main de Dieu. Est-ce que je mets ma confiance en Jésus lorsque je traverse des tempêtes ? Est-ce que j'ai confiance en lui qu'il apaise les tempêtes de ma vie ? Prions, s'il vous plaît. Notre Père céleste, nous te remercions parce que c'est toi le bon berger, Jésus. Combien nous te chérissons, combien nous t'aimons, Seigneur. Combien tu as apaisé de tempêtes dans nos vies. Tu as fait des miracles et nous voulons t'adorer. Apprends à t'adorer, à te voir agir. Merci des épreuves que tu permets dans nos vies. C'est vrai, c'est peut-être facile à dire, mais Seigneur, tu as un fruit paisible de justice que tu accomplis dans nos vies par l'épreuve pour nous amener à ressembler à Jésus. Jésus, tu as été le modèle parfait, éprouvé jusqu'à la mort de la croix, mais tu n'as pas failli, tu as persévéré jusqu'au bout. Et nous t'en rendons grâce ce matin tous ensemble. Au nom de Jésus. Amen.